Aujourd'hui, bien, c'est la fête de Saint Thomas, un saint merveilleux, un saint qui nous aide à croire et nous aide à adhérer à cette grande déclaration qu'il a faite et qui est une des déclarations les plus étonnantes. Quand, agenouillé devant Jésus, ressuscité, il déclare « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans un film que j'avais fait sur le Saint-Suaire de Turin, et que j'avais tourné à la NASA, à Scotland Yard, à Paris et à Turin, et qui a fait le tour du monde d'ailleurs, heureusement, parce que le sujet a intéressé beaucoup de pays, eh bien, Olivier Clément disait à la fin du film, il est le premier à avoir déclaré ainsi « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est aussi la fête aujourd'hui, je vous le signale en passant, de Saint Léon II, un pape, qui est allé au ciel, on peut dire, un peu comme Jean-Paul Ier. Il n'a pas terminé, il n'a pas été longtemps pape, à peine quelques mois. Et puis, c'est par contre lui qui a établi cette idée assez étonnante d'asperger la foule avec de l'eau bénite en rappel du baptême. Et... c'était un rite chrétien qu'il a établi, qui s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. Il est un peu délaissé, mais par contre, j'ai eu comme curé d'une desserte de la cathédrale. Cette desserte Saint-François-Xavier était tenue au Collège de Montréal, rue Sherbrooke, près de Côte-des-Neiges. Et l'abbé Pierre Léger, qui est très connu, nous aspergeait souvent d'eau bénite. Et je me souviens que les gens s'essuyaient même parfois la figure. Et mais ils étaient contents, et les gens assez âgés n'étaient pas contre ça du tout, du tout. Et l'abbé Pierre Léger nous aspergeait généreusement d'eau bénite en rappel de notre baptême et dans le but aussi de nous faire prendre conscience que nous étions vraiment en présence de Dieu. C'est aussi la fête aujourd'hui de deux saints Raymond, saint Raymond Guérard, un confesseur qui est mort en 1118, à Toulouse, et aussi on fête aujourd'hui, comme on fêtait la semaine dernière d'ailleurs, le bienheureux Raymond Lulle, et j'espère pouvoir vous en parler un peu, parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit la semaine dernière, un personnage extraordinaire. Donc Saint Thomas, qui est un apôtre de Jésus, un des 12 apôtres. Thomas, ce nom-là signifie jumeau. Comme en grec, on dit didyme, et c'est en hébreu, ça, Thomas, veut dire jumeau. Et d'après saint Jean, Thomas ne manque pas de générosité ni de dévouement. Hein. Il raconte que quand Jésus veut rentrer en Judée, il part de la Galilée, où il est raisonnablement bien reçu, mais en Judée, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Alors, il veut là rentrer en Judée pour retrouver son bon ami Lazare, qui vient de mourir. Vous vous souvenez, cette résurrection de Lazare, c'est extraordinaire, cette scène magnifique, qui a été très bien traduite malgré tout, et c'est pas facile, dans le film Jésus de Nazareth. Mais il faut lire le texte dans saint Jean. Et là, les disciples de Jésus s'objectent au fait qu'ils veuillent quitter la Galilée pour entrer en Judée, parce que ils savent que là, beaucoup de Juifs sont opposés à lui, de plus en plus, au point de souhaiter sa mort. Et c'est bien normal, hein? Jésus se prétend de plus en plus le Messie, et la rumeur court de plus en plus qu'il veut transformer bien des choses, et alors les Juifs s'y opposent. Et voyant que Jésus persiste là dans sa décision, bien Thomas s'écrie « Allons-nous aussi pour mourir avec lui ». C'est au chapitre 11, verset 16. On peut se demander si il n'est pas un peu découragé dans un sens devant les décisions de Jésus. Il y en a des malins là, qui veulent interpréter ça d'une autre façon. C'est comme si saint Thomas disait, il tient à se faire tuer, notre Jésus, eh bien, et nous aussi par-dessus le marché, eh bien, allons, ben, on verra bien le résultat que ça va donner. Mais c'est pas ça du tout, je ne crois pas. C'est vraiment le courage de Thomas, qui est un homme courageux, mais il y a du doute chez lui. Comme chez tant de gens depuis 2000 ans, le doute nous habite tous, même par rapport, je crois, pour bien d'entre nous, à l'existence de Dieu, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. C'est pas facile, mais on sait bien que Dieu existe, du moins moi j'en suis absolument convaincu, même si le doute m'effleure de temps en temps comme ça, comme une espèce de coup d'aile sur mon cerveau. Et alors, dans Saint Jean, bien, on retrouve au chapitre 14, verset 5, Jésus vient de dire, le lieu où je vais, c'est-à-dire auprès du Père, évidemment c'est ce qu'il veut dire, le lieu où je vais, vous en savez le chemin. Et là, Thomas réplique avec une espèce d'humeur, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Mais la scène très importante qui concerne notre saint du jour, saint Thomas, c'est au chapitre 20, les versets 24 à 29, la belle scène. Et Thomas est absent quand les disciples sont alertés par Madeleine, hein, qui dit qu'elle l'a vu ressusciter le Jésus. Alors, ils ont reçu, les disciples, la visite de Jésus ressuscité, et Thomas est absent, puis Thomas déclare, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, eh bien, je ne croirai pas. » Et 8 jours après, une semaine plus tard, Jésus revient, exprès pour Thomas. Et il déclare, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. » Avance, quand il dit ses mains, ça veut dire aussi ses poignets, hein, parce que le mot « main » dans le sens hébreu, ça comprend le poignet. Les clous sont dans les poignets, on le voit bien sur le Saint-Suaire de Turin, et c'est évident que le corps n'aurait pas tenu en croix si les clous avaient été plantés dans le creux des mains. Il fallait bien que ce soit planté dans l'espace dit de « desto », un nom français, un médecin français, chirurgien, c'est dans le poignet. Et alors, il dit, avance ta main et mets-la dans mon côté. Côté droit, n'est-ce pas, où était le coup de lance qui a atteint le cœur et qui a fait sortir le sang et l'eau. Et Jésus ajoute, et ne te montre plus non-croyant, mais croyant. Et Thomas, confus d'entendre son maître citer ses propres paroles, eh bien, il répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus ajoute, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Eh bien, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et Thomas est donc parmi les 7 disciples qui trouvent Jésus sur le bord de la mer de Tibériade, aussi au chapitre 21, au verset 2. Et moi, c'est une scène qui me touche beaucoup, parce que quand je contemple le Suaire de Turin dans toute son étendue, on voit la plaie au côté droit. Et on voit les clous dans les poignets, hein, les traces de sang. Et je pense toujours à saint Thomas quand je contemple le Saint-Suaire de Turin. Dans toute sa grandeur, parce que vous savez que le Saint-Suaire de Turin retient la photo, ou le négatif, et nous avons maintenant la photo depuis 1898, une vraie photo, de tout son corps, de face et de dos. Bon, passons maintenant à la littérature apocryphe qui concerne saint Thomas. Hein. On parle souvent de l'évangile de Thomas, combien de fois on s'y réfère. C'est devenu la mode depuis quelques années de se référer aux textes apocryphes qui ont été apocryphes, ça veut dire des textes qui ne sont pas dans les évangiles proprement dit ou dans les épîtres proprement dit du Nouveau Testament, tel que défini par l'Église catholique dès le début de l'Église. Et alors là, dans cette littérature apocryphe qui a foisonné, n'est-ce pas, autour des apôtres, eh bien, cet évangile de Thomas, dans lequel il est question de l'enfance de Jésus, les musulmans s'y réfèrent, n'est-ce pas, pour dire certaines choses dans le Coran, bien là, il y a aussi une apocalypse de Thomas, puis il y a des actes de Thomas, j'ai oublié de vous le dire. Alors, les actes ont été probablement composés vers 250, croit-on, à Édesse. Édesse, c'est en Turquie, ça s'appelle Urfa aujourd'hui. C'est dans cette ville qu'aurait été retrouvé le Saint-Suaire de Turin vers l'an 500 quelque chose, dans les murs de la ville d'Édesse, où il avait été caché. Et là, donc, les actes auraient été composés à Édesse par un Syrien vers 250, un Syrien qui était assez bien renseigné sur l'Inde. Alors, on trouve là tout un amalgame d'éléments chrétiens, d'éléments manichéens, d'éléments bouddhistes même, hindouistes, quoi. Et puis, selon ce document, bien, Judas, Thomas, il l'appelle Judas Thomas, hein, dans le texte, qui serait le frère jumeau de Jésus, jumeau identique. Et c'est absolument invraisemblable, tout ça. Et puis, il aurait prêché dans l'Inde, où le Seigneur l'avait vendu comme esclave entrepreneur de travaux de bâtisse. C'est invraisemblable, tout ça. Alors, c'est toute une propagande, hein, qui lui aurait valu d'être percé de lance. Et puis, dans le récit, il est question d'un roi qui est connu, par ailleurs, le Gondafar, au pays de Gandhara, vers l'Indus, là, un roi qui possédait de grands troupeaux d'onagres. Il est question aussi d'un château que Thomas aurait édifié dans le ciel avec l'argent dépensé en aumône que le souverain lui avait donné pour bâtir un palais. Oh, il est question de toutes sortes de choses invraisemblables. En tout cas, notre auteur, le Syriaque, là, il a cousu à tout cet ensemble une longue allégorie en vers qui est pas sans beauté. Ça s'appelle « La chanson de l'âme hein. ». Enfin, je vous fais grâce de toutes sortes de détails. Mais de toute façon, l'Église catholique qui comprenait l'Église orthodoxe en même temps, c'était à la fois et l'Église orthodoxe et l'Église catholique unies à cette époque, a jugé sévèrement toute cette morale excessive, les contes extraordinaires, des saints comme les évêques Saint Épiphane, grec, Saint Augustin, latin, ou comme le pape Innocent Ier, bien, se sont élevés devant toutes ces extravagances de ces textes-là. Alors, faut pas s'attarder à ces écrits apocryphes. Je me suis étendu un peu là-dessus parce que c'est tellement la mode, les écrits apocryphes, que ça en devient un peu fatigant, hein. Il y a un décret que l'on appelle du pape Gélas, qui a mis à l'index toutes ces élucubrations, d'ailleurs. Mais elles ne sont plus à l'index, on peut les lire, elles sont publiées, et on vient encore de les republier de façon magistrale. On peut les lire si on veut, mais sachons que ce sont comme des contes, comme les contes de Perrault, quoi. Et l'art et le théâtre du Moyen-Âge les ont souvent utilisés. Ça revient donc à la mode. Et il y a un Thomas qui a prêché dans l'Inde, mais est-ce notre Thomas? C'est fort possible que ce soit notre Saint Thomas. De toute façon, il y a des chrétiens dits de Saint Thomas en Inde. Ils sont à peu près 2 millions au moins, je pense bien maintenant, parce qu'ils sont énormément répandus. Ils se réclament de l'apôtre Saint Thomas. Ils ont des évêchés. On appelle leur façon de célébrer la messe le rite syro-malabar. C'est de type chaldéen, avec une sorte de rite syriaque aussi, puis une sorte de langue syriaque. Et une partie de ces chrétiens est passée autrefois au nestorianisme, on y reviendra, les nestoriens qui ont influencé Mohammed, Mahomet. Hein. Et puis, quelques-uns sont revenus à l'Église catholique il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Et Pie XI, en 1932, a créé le titre de métropolite de Trivandrum. Et j'ai assisté moi-même à une messe à la cathédrale de Montréal, de cet évêque étonnant, qui portait de très grands cheveux, qui lui descendaient jusqu'au milieu du dos, et qui portait un turban énorme, très très élevé, et des vêtements roses et oranges et bourgogne, et il était accompagné de prêtres et de diacres qui portaient des clochettes, et oh, c'était des gens au teint foncé, hein, des Indiens de l'Inde. Mais passé au catholicisme, devenu catholique, reconnaissant le pape et conservant toutes leurs traditions, toutes leurs façons d'être, ils célébraient la messe à la cathédrale et j'étais arrivé malheureusement quelques instants en retard et quand je les ai entendus chanter avec des voix nasillardes et tout ça, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait dans la cathédrale et c'était ces Indiens de l'Inde de rite syro-malabar passés à l'église catholique. Alors, on les retrouve près de Madras. Hein. Et d'ailleurs, c'est près de Madras, à San Tomé de Meliapur, que l'on vénère les reliques de Saint Thomas. C'est pour ça que ça s'appelle San Tomé. Théo, M-E, accent grave, mais c'est Saint-Thomas, en fait. Et puis, il y a une patio de Thomas, une patio Thomé. Quand on lit ça, on voit que les reliques de l'apôtre auraient été en partie à Édesse, toujours cette ville d'Édesse en Turquie aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Saint Éphrem, qui est mort en l'an 373, connaissait d'ailleurs une tradition selon laquelle c'était un marchand qui les aurait apportés à Édesse. Donc, il avait obtenu de l'Inde quelques reliques de Saint Thomas. Il y a une chronique, d'ailleurs, d'Édesse qui conserve le souvenir d'une translation, la translation des restes. Et je vous fais grâce de toutes sortes de détails. De toute façon, la date primitive de la commémoration de Saint Thomas a été le 3 juillet. La fête est passée au 21 décembre et maintenant, c'est revenu au 3 juillet. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête de ce grand saint, Saint Thomas, qui nous aide à croire à la résurrection de Jésus. Alors, on vient d'entendre un extrait d'un magnifique concerto pour trois clavecins et cordes de Jean-Sébastien Bach. Magnifique concerto. Et voici maintenant quelques mots sur un saint, Saint Anatole. Je le mentionne parce qu'il y a encore des Anatoles, des gens qui s'appellent Anatole. Je me souviens qu'il y en avait quand j'étais jeune, Anatole Vanier, etc. Alors, il était évêque de Laodicée. Laodicée, bien, c'est en Syrie, vers la fin du 3e siècle, c'est pas d'aujourd'hui. On le connaît surtout par la fameuse histoire ecclésiastique d'Eusèbe, de Saint Eusèbe, dont je vous ai parlé déjà, cette fameuse histoire ecclésiastique. Et puis aussi par Saint Jérôme, dans son livre « Des Viris », c'est au chapitre 73, on trouve ça dans la patrologie latine. De toute façon, notre saint Anatole n'était pas syrien, mais il était égyptien. Il venait d'Alexandrie, de la grande ville d'Alexandrie, qui était une des villes les plus intellectuelles. Et il a été honoré, avant de devenir évêque, il a été honoré des plus éminentes charges de la ville. Dans cette cité où les études étaient extrêmement avancées, bien, son prestige intellectuel était vraiment très, très grand. C'était un grand intellectuel. C'est pour ça que je vous en parle, parce que souvent, on peut s'imaginer qu'il n'y avait pas tellement d'intellectuels et de grands savants qui croyaient. Mais oui, il y en avait, puis il y en a encore aujourd'hui. Ma rencontre à la télévision de Radio-Canada pendant 20 ans, j'en ai interviewé plusieurs. Je mentionne le plus grand mathématicien français à l'époque, André Lichnerowicz, Montecas, l'un des plus grands mathématiciens, était professeur au Collège de France, ou bien Charles Fehrenbach, éminent astronome, et quantité d'autres. Et alors, Saint Anatole brillait, lui, en arithmétique, en géométrie, en astronomie, en physique, et en dialectique, en rhétorique, l'art de parler en public. Il savait faire des raisonnements très, très clairs. On lui a d'ailleurs offert à Alexandrie une chaire de philosophie, pour enseigner la philosophie d'Aristote. Et parmi ses œuvres, eh bien, Eusèbe de Césarée cite des canons sur la Pâque, c'est-à-dire sur la résurrection, et 10 livres, chose étonnante, sur l'arithmétique. Enfin, on a des fragments, d'ailleurs, de son ouvrage sur l'arithmétique dans les Pères grecs, au tome 10. Je vous rappelle que saint Anatole était un père, il fait partie des Pères grecs, il écrivait en grec. C'est toujours nos deux grandes églises qui sont les deux poumons du christianisme. L'église que l'on appelle orthodoxe et l'église que l'on appelle catholique, qui, unie à cette époque, produisait tellement de grands saints, des saints admirables. C'est vraiment très, 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 très encourageant quand on lit toutes ces choses. Enfin, je vous signale que si nous fêtons encore la fête du bienheureux Raymond Lulle, je crois devoir vous en glisser un petit mot juste avant de vous faire entendre de la musique, en vous rappelant que le bienheureux Raymond Lulle est un laïc qui serait mort martyr, mais on n'est pas tout à fait sûr. On peut dire qu'il est mort martyr, je crois que c'est pas exagéré. Et cet homme qui s'est marié, qui a eu 2 enfants, Dominique et Madeleine, a parcouru l'Europe. Ce laïc converti à 30 ans est devenu l'un des hommes les plus extraordinaires pendant plus de 50 ans dans l'Église, voyant à des choses absolument fantastiques, faisant des choses qui dépassent tout entendement. Vous verrez, je vous raconterai ça à compter de 11h30, et vous serez absolument émerveillés. J'en ai glissé un mot la semaine dernière, mais je tiens absolument à y revenir de façon plus précise, parce que Raymond Lulle, ça s'écrit L-U-2-L-E, était un vraisemblablement un tertiaire franciscain, mais grandement influencé par les dominicains, homme d'une grande vie intellectuelle, d'un génie, quoi, qui a appris volontairement l'arabe pour pouvoir discuter avec les musulmans, ce qu'il a fait en allant dans l'Afrique du Nord, à Tunis, et à Bourgie, en Afrique du Nord aussi, en Algérie. Enfin, il a vraiment été exceptionnel. Il est allé à Paris, il enseignait à Paris, il est allé à Rome, il est allé partout. Il est allé même jusqu'en Europe centrale, il est allé en Espagne. Il a écrit tellement d'ouvrages qu'on en est complètement dépassé. C'est donc le bienheureux Raymond Lulle. Peut-être j'ai un faible pour Raymond Lulle puisque je porte le même prénom, mais c'est pas pour ça, je vous en assure. Raymond Lulle est né à Palma, dans les Baléares, à Majorque, quoi. C'est fait partie de l'Espagne aujourd'hui, en 1235. Son père, qui s'appelait Raymond aussi, ou Ramon, était de noblesse catalane, c'est-à-dire la Catalogne, c'est pas cette région de l'Espagne, tout près de là, tout près de la France, je vous rappelle, qui en partie souhaiteraient son indépendance, ils aimeraient être libres, vous savez, c'est là que se sont tenus à Barcelone les grands Jeux olympiques, hein, il y a quelques années. Sa mère, d'ailleurs, avait à Barcelone des biens considérables. Et puis, ses parents ont soigné son éducation, tant physique qu'intellectuelle et morale. Et vers 14 ans, bien, il a étudié les arts libéraux. Il est entré comme page à la cour du roi Jacques Ier d'Aragon. Et ses poésies, c'est-à-dire les poésies des troubadours, vous savez, les troubadours, c'était des gens qui passaient de château en château pour... Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, pas de disque, il n'y avait rien, pas de cassette. Alors, les gens riches, comme ça, payaient des itinérants, quoi, des musiciens itinérants,
des itinérants, pas des pauvres, mais des musiciens itinérants qui venaient chanter et raconter des poèmes. On voit ça dans certains films, hein? Dans, surtout Les Visiteurs du Soir, très beau film. Alors donc, les poésies des troubadours y étaient en vogue, les plaisirs sensuels aussi étaient en vogue à la cour, alors il était pris par ça. Et puis, il a suivi le mouvement, quoi. Comme on fait encore aujourd'hui, n'est-ce pas, la plupart des jeunes suivent les mouvements de notre nouvelle musique qui est supposée leur plaire. Et puis là, il est devenu, lui, je vous l'avais dit la semaine dernière, sénéchal, c'est-à-dire administrateur du palais de l'infant, c'est-à-dire celui qui devait succéder à son père. Et quand le père de l'infant est mort, ou plutôt quand, plutôt son père à lui est mort, je m'excuse, Raymond Lulle a épousé en 1257, donc à 22 ans, Doña Blanca Picani. Il en eut deux enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dominique et Madeleine, et sa vie restait fort libre et plutôt mondaine. Alors il courtisait les femmes, il était infidèle. Et en bon troubadour, il était troubadour un peu, il aimait la musique, alors il leur dédiait des poésies amoureuses. Il écrit beaucoup, beaucoup de poèmes d'ailleurs. On a raconté même que notre bienheureux Raymond Lulle a poursuivi une Génoise jusque dans une église sans même descendre de son cheval. Hein. Avant sa conversion, il était déchaîné. Alors, il était cancéreux. En tous les cas, il a eu cette image devant lui très très forte. Et il croit que cette apparition lui s'est répétée 4 fois, alors qu'il écrivait des poèmes. Et la 5e fois, bien alors là, il a compris que le Christ l'invitait à tout donner. C'était en 1265, pas tellement longtemps après son mariage, donc à peu près 8 ans. Et là, il y a eu un programme qui a germé dans son cœur, tout un programme de vie. Il a décidé de chercher le martyr, de publier des œuvres d'apologétique, c'est-à-dire des œuvres pour défendre la foi catholique, destiné aux Arabes, qui étaient musulmans. Et puis, il a rêvé de créer des collèges, et puis, où là, les missionnaires apprendraient l'arabe, et aussi le tartare, hein, la langue des tartares, pour l'Orient, vraiment l'Orient, là. Et puis, les missionnaires s'entraîneraient donc à une vie vraiment apostolique, puis à penser aux martyrs. Je me souviens d'être allé comme ça à une messe le jour de Pâques, dans la nuit de Pâques, au Rusticum à Rome, où des jésuites, y compris le père Ménard, un jésuite de Montréal, étudiaient la pensée russe orthodoxe afin d'aider nos frères russes orthodoxes pour pouvoir aller faire du ministère et les aider là-bas à lutter contre le communisme. C'était en 1950 que je les ai vus au Rusticum célébrer des messes en rite russe oriental, le père Ménard étant passé au rite oriental. C'était superbe, c'était très très beau de voir ces gens qui se préparaient au martyr, beaucoup sont morts martyrs. Alors donc, notre Raymond Lulle rêvait de faire la même chose au XIIIe siècle, et pour la fête d'ailleurs de Saint-François d'Assise, bien Raymond Lulle a abandonné son poste de sénéchal, puis il a reçu de l'évêque l'habit d'ermite. Alors là, il avait donc quitté sa femme et ses enfants, mais comme il était très riche de par sa mère, il avait pu établir sa femme et ses 2 enfants avec des administrateurs de la fortune. Ils ont été très à l'aise, il les a toujours aidés et secourus, mais c'est un peu surprenant qu'il ait pu quitter comme ça sa femme et ses enfants, mais il paraît que c'était permis, ou ça se faisait à l'époque, ce qui n'est plus permis aujourd'hui. Alors, il a fait un pèlerinage d'abord au Montserrat. Le Montserrat, c'est ce grand monastère bénédictin, juché dans des rochers roses. J'y suis déjà allé passer quelques jours. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est un immense monastère. On peut en entendre des chants bénédictins souvent sur les ondes de Radio Ville-Marie, les moines chantant avec les élèves, car ils ont un grand collège. Et il est allé aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, n'est-ce pas, ce grand centre de pèlerinage de l'apôtre Saint-Jacques. Alors, il a pensé se rendre à Paris pour étudier la grammaire, les sciences, et puis il a résolu même de se mettre là-bas au latin et à l'arabe. Il a étudié les 2 langues. Il s'est plongé ensuite dans la philosophie, la théologie. Ça a duré 9 ans, ses préparations. Alors là, Raymond Lulle s'est retiré chez lui, sur une montagne qu'il possédait, pour se livrer à la contemplation.
le huitième jour de sa retraite, en 1274, il a eu de Dieu, dit-il, une grande lumière sur la méthode à suivre dans ses livres qu'il écrivait pour les musulmans. Et il a fait allusion plusieurs fois à cette faveur qu'il a reçue de Dieu. Et elle lui avait lu d'ailleurs le titre de docteur illuminé. C'est assez surprenant. Alors on peut dire, mon Dieu, est-ce que c'était un fou ou un homme intelligent? Mais c'était un homme très intelligent qui croyait sincèrement avoir ses visions. Les avait-il ou ne les avait-il pas? Pourquoi pas? Il aurait fort bien pu les avoir, à mon avis. Et alors, le Raymond Lulle est descendu de sa montagne, donc, puis s'est rendu dans un monastère des Cisterciens, où il s'est mis à écrire immédiatement un ouvrage extrêmement important parmi tous les textes qu'il a écrits, c'est Ars Magna, l'art le plus grand, si on peut dire, hein, ce serait de la traduction. Puis, il est remonté sur la montagne, au lieu de son illumination, là, pour y faire construire un ermitage où il est resté 4 mois. Puis là, de 1274 à 1276, il a rédigé plusieurs ouvrages importants. Il était tellement pris par son travail que c'est là qu'il a décidé vraiment de donner un curateur à son épouse pour gérer tous ses biens parce qu'il avait une énorme fortune. Tout ça a été signé le 13 mars 1275, comme quoi on a bien des documents qui s'est occupé de sa femme malgré tout. Alors, il n'était pas abstrait, n'est-ce pas, par rapport aux choses de sa famille. Il semble que Dieu l'appelait à quelque chose d'autre. Et il dit souvent qu'il souffrait pour sa femme. Il souffrait pour son fils en particulier, qui s'ennuyait de son père. Ça me rappelle un peu Marie de l'Incarnation, hein, cette grande Ursuline qui a vécu à Québec et qui avait comme ça abandonné son fils à son frère, ou son fils de 9 ans ou 10 ans, hein, qui est devenu lui-même un abbé bénédictin remarquable dans un grand monastère de Normandie. Il a établi des contacts toujours avec sa mère à Québec, et leur correspondance est magistrale. Je me souviens d'avoir fait une de mes premières émissions de la télévision sur cette question, sur cet échange entre la mère et le fils. C'était des textes absolument admirables. Alors là, le roi de Majorque, toujours notre fameux roi de Majorque, tenait assez souvent sa cour, chose étrange, à Montpellier. C'était pas tellement loin, mais en France. Alors, il a fait venir Raymond Lulle, on a examiné ses ouvrages, puis là, dans la capitale du Languedoc, c'est-à-dire à Toulouse, eh bien, Raymond Lulle a composé un autre livre très important, il l'a lu en public. Et c'est sans doute à cette occasion-là qu'il a tenu le titre de maître, ce qui était très recherché à l'époque, maître en théologie. Et il a obtenu du roi la fondation d'un collège sur l'île de Majorque, à Miramar, où se préparaient 13 franciscains qui apprenaient les langues, particulièrement la langue arabe. Hein. Et le pape Jean XXI, qui était un portugais, l'a approuvé en 1276. Jean XXI est mort après 8 mois seulement de règne. Il était dans un petit palais qui était sa résidence, sa viterbe. Les papes ne logeaient pas nécessairement au Vatican à l'époque. Hein. Et son palais s'est écroulé, puis c'est comme ça qu'il est mort, hein, 8 mois après avoir été élu. C'est assez surprenant. En tous les cas, on connaît très mal l'activité de Raymond Lulle à partir de 1276, là, jusqu'à 1286, pendant 10 ans même. Mais on sait qu'il est allé à Rome, il est allé voir le pape Nicolas III, qui était le premier, lui, à habiter le Vatican. C'est le pape Nicolas III, je vous le rappelle, c'est lui qui avait envoyé au grand chef, au grand khan des Tartares, une ambassade de 5 franciscains qui ont traversé l'Europe et l'Asie pour se rendre jusque-là. Et il est fort possible que, à cette époque, eh bien, Raymond Lulle ait souhaité partir avec les franciscains, comme laïc, hein. De toute façon, on sait que Raymond Lulle est allé en Terre Sainte, il a visité l'Égypte, et puis il a parcouru l'Europe à compter de 1287, et puis, c'est-à-dire jusqu'en 1287 plutôt, je m'excuse, parce qu'en 1282, on le trouve à Perpignan, etc., etc., on le voit qui assiste à chapitres généraux de Dominicains, et c'est là, chez les Dominicains, qu'il reçoit beaucoup de souffle théologique, de souffle philosophique, une vie intellectuelle toujours accentuée, hein. Et le pape Honorius IV était très sympathique aux idées de Raymond Lulle, c'est un des seuls qui a vraiment écouté Raymond Lulle. Il y a même ce pape essayé de mieux comprendre les Grecs orthodoxes, les orthodoxes séparés de l'Église catholique depuis 1054, et donc un peu plus de deux siècles plus tôt. Et ce pape a essayé d'établir des liens, a tendu la main aux orthodoxes, mais ça n'a pas marché. Il a même tenté des accords avec l'islam. C'était un pape étonnant, cet Honorius IV. Hein? C'est lui qui a reconnu le premier les carmélites. Hein? Alors, Raymond Lulle, à la suite du décès de ce pape qui lui était favorable, est parti bredouille de Rome pour Paris. Et puis, il enseigne à Paris. Il demande au roi Philippe le Bel, puis à l'Université de Paris, d'ouvrir un collège de langue grecque, de langue arabe, de langue tartare, mais sans succès. Il est un précurseur des liens à établir entre les hommes de la terre entière. Mais ça marche pas, ces choses. Et puis, il se rend à la cour du pape Nicolas IV. Il expose des plans d'une croisade pacifique. Hein. Et puis, il propose au pape l'établissement de collèges orientaux là, pour s'occuper des liens avec les orthodoxes et aussi avec les bouddhistes. Il fait toutes sortes de choses. Il écrit finalement en arabe un très beau livre qui s'appelle « L'art de trouver la vérité ». Et là, il parcourt l'Europe sans résultat. Et Raymond Lulle, finalement, décide d'aller en Afrique du Nord afin de discuter calmement avec les musulmans sur la question de la foi, selon les règles de son fameux livre Ars Magna, l'art, si on peut dire, le grand art. Il passe alors par une crise de santé physique. Il s'affaiblit beaucoup, puis alors ça affecte son moral aussi. Il commence à presque désespérer, dit-on, de son salut. Ça arrive chez des grands malades, des gens qui pensent qu'ils ne se seront pas sauvés. C'est comme un résultat de la faiblesse physique. C'est très étrange. Et puis, là, il reçoit, en priant la Vierge et en écrivant un Libre de Santa Maria, un livre sur la Sainte Marie, un accroissement de sa foi. Et puis, il retrouve l'espoir. Et alors, il guérit. Puis là, il arrive à Tunis. Il discute avec les docteurs de l'islam et on le condamne à mort. Imaginez, c'est tout un étrange argument, hein, pour vouloir discuter avec les musulmans. C'est étrange, il le condamne à mort. Finalement, bien, il décide, parce qu'il y a des musulmans qui ont quand même du cœur, et beaucoup de cœur, et alors là, il décide de le bannir. Mais après l'avoir roué de coups, alors là, il est conduit en bateau, Et il essaie de s'échapper du bateau pour revenir à Tunis, parce qu'il veut vraiment discuter encore, mais il doit se réembarquer. Et à Naples, en 1293, eh bien, il achève un autre livre très important, la Tabula Generalis, et puis ce séjour à Naples là, a été fécond, puis il enseigne jusqu'à l'avènement du pape Célestin V, dont je vous parlerai. Alors, je vous ai dit que notre bienheureux du jour, Raymond Lulle, enseignait à Naples. Jusqu'à l'avènement du pape Célestin V, je vous glisse un mot du pape Célestin V. C'est un pape qui a été canonisé, Saint Célestin V. C'était un ermite qui a été élu pape. Et puis, il n'a pas duré longtemps, il n'a duré que quelques mois. Il a démissionné. C'est un des rares papes qui a démissionné. Parce que il s'est rendu compte qu'il était l'instrument dans les mains des puissants du temps. Au Moyen-Âge, et il a considéré qu'un pape pouvait démissionner. C'est un des rares papes à démissionner. Je crois qu'il y en a eu 5 qui ont démissionné. On croit toujours qu'il n'y a que Célestin V, mais je pense qu'il y en a 4 autres. Il faudrait que je revienne là-dessus. Donc, à la fin de 1294, Célestin V était encore pape. Il venait d'être élu, d'ailleurs. Il a été élu au mois d'août, je pense qu'il a démissionné au mois de décembre. Alors, le pape est allé à Naples, ce saint pape, et Lulle lui a présenté sa pétition pour la conversion des musulmans, et là, il demandait des séminaires encore de langue orientale, et il demandait l'alliance des chrétiens, et puis même des tartares qui auraient pu comprendre, afin d'aider l'islam à se retirer des lieux saints. Et là, où ils occupaient, n'est-ce pas, le Jérusalem. Et après l'élection du pape qui a succédé au mois de décembre à Célestin V, le pape Boniface VIII, c'était un très grand pape, ça, il était venu à Rome. Puis là, il a essayé de convaincre ce nouveau pape de créer des collèges, là, un peu partout, en Europe, et même en Tartarie. Puis de promouvoir la réunion, c'est-à-dire la réunion avec les chrétiens orthodoxes, les Grecs, afin que l'Église soit une. Et puis il a même parlé devant le Sacré Collège des cardinaux, mais finalement sans succès. Il n'avait pas de succès. Il a combattu toutes sortes d'idées. Il a écrit. Sans cesse, ils l'ont publié en 97, 99, 98 aussi, plusieurs fois. En tout cas, c'était un penseur international. Il a écrit en décembre 1298 une lettre de consolation à la ville de Venise, qui avait été vaincue par les Génois, puis il s'est entremis pour obtenir la paix. Il s'occupait de toutes sortes de choses. Il a très bien connu le doge de Venise, le roi Louis-Philippe. Absolument, c'est fantastique. Il avait plus de 60 ans, et puis il s'est pas découragé, même s'il réussissait à rien faire à Rome ou à Paris. Bien au contraire, il a été très actif. Il a écrit des opuscules, des poésies, a voyagé en Europe, en Asie, en Afrique. Ça se succède, c'est absolument inimaginable. Je vous fais grâce de tous les voyages. Il va à Chypre, il va partout. Il apprend en Orient que l'islam a contre-attaqué victorieusement. Alors Raymond Lulle se dispute sur la foi avec les musulmans, les jacobites, les nestoriens, les grecs. Il défend toujours la foi catholique, mais il essaie de toujours comprendre les autres. Il ne les attaque pas méchamment, il les attaque calmement. Il veut toujours comprendre les autres, hein, mais il veut affirmer sa foi. Il vient d'un courage incroyable, d'un laïc. Hein. Il aurait voulu que le roi de Chypre convoque tout le monde à des controverses publiques. Il offrait même de plaider sa cause devant les sultans d'Égypte et de Babylone. Enfin, c'est absolument fantastique. Il a écrit aussi d'autres ouvrages, les 1000 proverbes. En 1303, il est à Gênes, où il traduit du latin en catalan son ouvrage philosophique qui s'appelle « La Nouvelle Logique ». En octobre 1303, il va à Montpellier, il repasse à Gênes un peu plus tard, et puis il achève un autre livre en 1305, qui est un programme pour reconquérir la Palestine, pour que les chrétiens puissent y aller faire leur pèlerinage en paix. Et finalement, le roi de Majorque lui concède une pension pour l'aider. Et puis, il va au couronnement du pape Clément V à Lyon. Oui, le pape Clément V a été couronné à Lyon. C'est assez surprenant. C'est lui qui va établir le siège du pape à Avignon. Hein. Et puis, finalement, il gagne Majorque. Et puis, il passe en Afrique. Il va à Bougie, en Algérie. Et c'est là qu'il crie sur les places, à peine débarqué au printemps de 1303, que certains éléments de la loi de Mahomet sont assez curieux. La charia, il s'attaque à la charia. Et qui ne s'attaquerait pas à la charia quand on voit ce que c'est, hein? C'est assez dramatique, et on en parle beaucoup de nos jours. Et alors, je veux pas blesser les musulmans en disant ça, mais je crois qu'il y a beaucoup de musulmans, d'ailleurs, qui voudraient adapter la charia ou la loi musulmane à notre époque. Hein. Alors, il est traîné à Bougie devant le conseil, puis il proclame sa foi, puis là, les musulmans l'emprisonnent. Et puis, il y a des chrétiens qui sont en résidence là, qui obtiennent quelques adoucissements au régime qui est d'abord très, très dur. Les musulmans le maltraitent beaucoup. Alors, au bout de 6 mois, on l'embarque de force pour Gênes. Là, le navire fait naufrage près de Pise, en Italie, là, où il y a la fameuse tour de Pise. Et là, Raymond Lulle perd tous ses livres qui vont au fond de l'eau. Et à Pise, eh bien, il décide de rédiger à nouveau en latin l'ouvrage qu'il avait écrit en arabe. Il l'a chez les Dominicains, desquels il reçoit beaucoup d'aide. Il finit par offrir au pape Clément V son livre sur l'acquisition de la Terre Sainte. Le pape est assez ému par ça. Il voit aussi toujours à désirer l'union des deux églises grecques, orthodoxes et catholiques. Il rêve vraiment à ça, mais il n'y arrive pas. Et finalement, il va à différents conciles, il assiste à des conciles de l'époque, là, et il retourne en Algérie, puis là, il est blessé à coups de pierre. Il est laissé pour mort, mais on le ramène et il meurt assez longtemps plus tard à Majorque où il s'était réfugié. Il écrit d'ailleurs en 1311, il résume sa vie. En 1311, il dit « J'ai été marié, j'ai eu des enfants, j'ai été passablement riche, j'ai été ami des plaisirs et de la mondanité, mais j'ai tout quitté de bon cœur afin de travailler pour l'honneur de Dieu et pour le bien public et pour exalter la sainte foi. J'ai appris l'arabe. À plusieurs reprises, je suis allé aux Sarrasins, c'est-à-dire chez les musulmans, pour prêcher. Pour ma foi, j'ai été pris, j'ai été incarcéré, j'ai été battu. » Ça ressemble beaucoup au texte de saint Paul. « J'ai peiné 45 ans pour émouvoir les dirigeants de l'Église et les princes chrétiens au sujet du bien public. Maintenant, me voilà vieux, me voilà pauvre. Mon idéal est toujours le même et il le restera jusqu'à ma mort, s'il plaît à Dieu. » En somme, l'œuvre de ce grand laïc tertiaire franciscain est immense, c'est pas encore inventorié de manière complète. On lui doit des sortes d'encyclopédies, des œuvres littéraires, des écrits philosophiques, des ouvrages théologiques et apologétiques nombreux, des œuvres mystiques comme « L'ami et l'aimé », des poésies qui sont d'un lyrisme poignant à la logique très très diversifiée, des écrits contre l'avéroïsme, des œuvres scientifiques, des écrits pédagogiques et aussi des publications sur la croisade puis les missions. En tout cas, c'est un très grand personnage et dans l'ensemble, on peut dire de sa philosophie qu'elle est très inspirée de saint Augustin, mais il suit aussi saint Anselme, saint Bonaventure, ce grand franciscain. Il a aussi écrit de très beaux livres sur Marie, c'est une théologie mariale qui est d'une réelle beauté. Il est un auteur spirituel des plus importants. Et son livre de contemplation, ça s'appelle comme ça, le livre de contemplation, c'est exactement ordonné à la paix de la vision mystique. En somme, il prépare saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d'Avila, et il fait penser à saint Bonaventure. Son style est assez tributaire d'ailleurs des Arabes, hein, il a été très influencé par les Arabes. Sa pensée est immense, son œuvre est si vaste et si ouverte. Ça lui a valu d'ailleurs toutes sortes de gens qui l'ont imité, et qui ont prétendu que c'était lui qui avait écrit leurs livres, des livres d'alchimie puis de magie, mais c'est pas lui. En somme, sa doctrine a été critiquée peut-être, ça lui a valu même certaines condamnations, mais il ne les méritait pas puisque ça a été relevé par le pape très très rapidement. En somme, son culte est autorisé à Majorque le 3 juillet. Il a été en voulant convertir les musulmans, il a été leur défenseur jusqu'à un certain sens, parce qu'il les a représentés devant la conscience des chrétiens. Et son effort pour comprendre les musulmans était immense. Il a été un missionnaire un cœur chargé comme celui de saint Paul, de saint François-Xavier. En somme, c'est une immense épopée chrétienne que celle de Raymond Lulle. C'est un des grands héros de tous les temps.